Nous allons entrer dans le chapitre 13 de Saint Jean. Essayons de bien comprendre ces trois premières réponses, ces adieux, le jugement de Jean, le jugement du théologien sur le mystère d'Israël. Puis, de nouveau, les adieux. Alors, évidemment, d'une certaine manière, vous voyez, les adieux sont coupés en deux parties par ce jugement de Jean. Mais on peut comprendre aussi que Jean souligne ce grand mystère du peuple d'Israël entre les deux adieux. Le premier adieu, Jésus qui quitte cette terre, et Jésus qui ne cesse de nous appeler. Et cet adieu de la fin, cet ultime adieu, qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc, c'est le grand mystère de la foi chrétienne qui est explicité d'une manière très très forte. C'est cela que Jésus, d'une manière ultime, réclame. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, y aura-t-il encore la foi? Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les observe pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai dite, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car moi, ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais c'est celui qui m'a envoyé, le Père, qui m'a commandé lui-même ce que je devais dire et exprimer. Et je suis dans son commandement. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ainsi donc, ce que moi je dis, comme le Père me l'a dit, ainsi je le dis. Donc vous voyez que c'est la dernière parole de Jésus à son peuple. Cette dernière parole, c'est pour rappeler la grandeur de la foi. En lui et par lui, en son Père, en Dieu. Et en même temps, ce sont des paroles qui expriment le discernement ultime de Dieu. Donc ça fait partie, si vous voulez, de l'espérance eschatologique aussi. Et à la fois l'espérance eschatologique est impliquée dedans. Avec le chapitre 13, nous allons entrer dans la première initiative de Jésus. Le chapitre 13, nous devons l'aimer beaucoup, parce que ce chapitre 13, c'est la réalisation du mystère de l'Eucharistie. Vous voyez, dans l'évangile de Jean, il y a les deux grandes lumières. Chapitre 6, Jésus prophète de l'Eucharistie. Chapitre 13, Jésus réalisateur, législateur du mystère de l'Eucharistie. Et il faut comprendre Jésus législateur du mystère de l'Eucharistie parallèlement à Moïse législateur de la loi. Il y aurait un parallélisme qui serait très important à bien voir. L'Exode, voyez, et puis le lavement des pieds. Donc, quand nous verrons dans l'Exode de Moïse, je vous rappellerai pour qu'on puisse mieux comprendre ce parallélisme si étonnant. Ces deux grands législateurs, avant la fête de la Pâque, alors Jean montre l'importance de ce geste. Et c'est pour ça qu'il reprend d'une façon très solennelle tout. Avant la fête de la Pâque, sachant qu'était venue son heure de passer de ce monde vers le Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et pendant un dîner, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, sachant que le Père lui avait tout remis dans les mains et qu'il est venu de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose ses vêtements et prenant un linge, il le noue à sa ceinture. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge noué à sa ceinture. Si nous mettons en parallèle ce qu'il faut faire dans ce texte, Luc et Jean, Luc au chapitre 22, qui est Luc qui raconte le mystère de l'Eucharistie. Et je crois qu'on peut dire que la source de Luc, c'est directement Jean. Et c'est pour ça que Jean ne redit rien de ce que Luc a dit. Mais Jean apporte quelque chose de nouveau qui n'était pas dit dans Saint-Luc. C'est que ce qui sépare et unit les deux Pâques, la Pâque de l'Ancienne Alliance et la Pâque de la Nouvelle Alliance, c'est ce geste de Jésus du lavement des pieds. Jésus prend là l'initiative. Ce n'était pas normal que celui qui préside, Jésus vienne présider la Pâque ancienne. Celui qui préside, c'est le Maître et le Seigneur. Et voilà que Jésus prend l'initiative de faire le geste de l'esclave. C'est le propre de l'esclave de laver les pieds de ceux qui sont reçus par le maître. Et Jésus est à la fois le maître et l'esclave. Et Jésus prend cette initiative sans demander conseil à personne, sachant très bien où en était Judas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus sait très bien que la décision est prise. Et Jésus veut une dernière fois atteindre Judas comme son disciple, le remettre dans sa véritable situation. C'est pour cela que Jésus fait ce geste. Jésus l'indique, il nous le fait comprendre. Je crois qu'on peut dire que le lavement des pieds est fait spécialement pour Judas et spécialement pour Pierre, pour les deux. D'une façon tout à fait différente, bien évident. Pour Judas, parce que c'est la brebis perdue. Et que Judas s'enferme dans sa volonté propre, dans son projet, son dessein. Il s'enferme complètement. Et Jésus veut une dernière fois l'atteindre. Jésus veut une dernière fois être tout proche de lui, être face à face. Seul à seul. Jésus veut une dernière fois toucher son cœur. Toucher son cœur en montrant son amour. En montrant que son amour veut être un amour de miséricorde et de pardon. Il veut montrer à Judas qu'il lui pardonne. Et c'est pour ça qu'il se met dans cette attitude de serviteur, d'esclave à l'égard de Judas. En lui pardonnant. Et Judas ne recevra pas ce geste de pardon. Judas ne voudra pas comprendre. Judas restera entièrement sur sa position. Ce geste, il est aussi pour Pierre. Je crois qu'il est pour les deux. Alors, selon l'ordre de sagesse, il faudrait regarder pour qui est-il le premier, pour Pierre ou pour Judas. Pour Pierre, c'est net. On le voit bien. La réaction de Pierre est suffisamment significative. Il vient donc vers Simon Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me lavez les pieds. » Jésus répondit et lui dit « Ce que moi je fais, toi, tu ne le sais pas à présent, mais tu comprendras dans la suite. » Jésus ne s'étonne pas devant la réaction de Pierre. Parce qu'il sait que Pierre ne sait pas. Mais tu comprendras dans la suite. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement mes pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus a touché la générosité de Pierre. Pierre veut avoir part avec Jésus. Et par entière. C'est pour ça, pas seulement les pieds, mais aussi la main et la tête. Et Jésus lui dit, celui qui s'est baigné et n'a pas besoin de se laver, donc celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, mais il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais non pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrerait. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Donc c'est assez net. Hein. Jésus veut laver les pieds à Pierre pour faire entrer Pierre dans une nouvelle conception de l'autorité. Une conception toute nouvelle de l'autorité. Ce que Pierre ne peut pas comprendre. Pierre a une conception trop liée à l'ancienne alliance. Alors il ne peut pas comprendre comment Jésus, qui est le maître et le seigneur, fait le geste de l'esclave. Et Jésus veut être le plus serviteur de tous, de la manière la plus gratuite, de la manière la plus donnée. Et on voit bien, Pierre ne comprend pas, Pierre est scandalisé, et Jésus lui fait comprendre que il faut qu'il accepte ça pour entrer dans une communion profonde avec ce que Jésus va vivre. Alors c'est à ce moment-là où Pierre accepte tout. La générosité de Pierre, hein, c'est toujours la même chose. On voit cette générosité étonnante de Pierre. C'est par là que beaucoup de choses ont été pardonnées. Parce qu'il y a cette générosité étonnante. Il se donne entièrement. Mais ça manque un peu de discrétion. Ça manque un peu d'intelligence, vous voyez. On le voit très bien. Il a un sens de l'autorité tel qu'on ne peut pas exercer l'autorité autrement. Or, Jésus exerce l'autorité d'une façon toute différente. C'est bouleversant, du reste. Hein. Nous aurions été là. Je ne sais pas si on aurait compris. Que Jésus se mette au pied de chacun et qu'il fasse le geste de l'esclave. Pour chacun. Pour chacun, il descend plus bas. Pour se remettre totalement. Jésus veut aller jusqu'au bout de la miséricorde. Et dans la miséricorde, il faut justement descendre plus bas que celui à qui on fait la miséricorde. Et Jésus descend plus bas que lui en faisant ce geste de l'esclave. Et Pierre est bouleversé. Pierre, pour lui, il faut exercer l'autorité avec un pouvoir. Et Jésus, il faut exercer l'autorité comme un esclave, sans aucun pouvoir, uniquement pour accomplir la volonté du Père et œuvrer d'une manière toute d'amour et toute de miséricorde. Il faut comprendre là ce geste de Jésus pour chacun en particulier. C'est un geste. Jésus veut être auprès de chacun d'une manière unique. Chacun l'ont vécu d'une manière unique. Lors donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien et je le suis. » Vous voyez, Jésus n'a pas abdiqué son autorité. On ne peut jamais abdiquer l'autorité, mais on peut l'exercer de façon diverse. Et c'est ce que Jésus souligne. Vous comprenez bien ce que je vous ai fait. Vous m'appelez, vous, maître et seigneur, et vous dites bien, je le suis en effet. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné pour que, comme moi, je vous ai, pour que, comme moi, je vous ai fait, vous fassiez vous aussi. En vérité, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître. Ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Donc Jésus nous donne là comme un nouvel exemple. Ce n'est pas un nouveau commandement, c'est un exemple, c'est un geste. Un geste que Jésus désire que nous fassions pour exprimer notre amour, pour exprimer son pardon. Vous savez bien, dans la vie commune, c'est nécessaire de se pardonner constamment. Et donc, il faut avoir le désir de se laver les pieds constamment les uns les autres. On ne peut pas le faire à chaque chapitre. Mais au fond, le chapitre, c'est ça. Le sens profond du chapitre, c'est ça. On se lave mutuellement les pieds en se demandant pardon. Et en disant combien on s'aime et combien on veut s'aimer. Combien on veut rester dans un lien de charité fraternelle le plus intense possible. Ceci, c'est la préparation immédiate à l'Eucharistie. C'est le pardon mutuel réalisé par Jésus. C'est Jésus qui veut qu'il y ait cette pureté total. Vous êtes déjà pur par ma parole. Il y a une pureté par le geste. Il y a la pureté qui est donnée par la parole, il y a une pureté qui est donnée par le geste. Et cette pureté qui est donnée par le geste, c'est justement la préparation ultime au mystère de l'Eucharistie. Et il y a là quelque chose de nouveau, de propre, qu'on ne voit pas autre part. C'est Jésus qui enveloppe tout de sa miséricorde et qui veut le faire comprendre. Ce n'est pas de vous tous que je parle, mais je connais ce que j'ai choisi. Vous voyez comme c'est curieux, Jésus revient sur la question du choix, le premier choix, la première rencontre, le premier moment. Je crois que tout ça, c'est pour éveiller un nouvel amour, éveiller une nouvelle émotion profonde et divine dans le cœur de Judas. Ce n'est pas de vous tous que je parle, moi je connais ce que j'ai choisi. Et c'est pour que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui consommait mon pain a levé contre moi son talon. Dès à présent, je vous le dis, avant que cela n'arrive, pour que vous croyiez une fois la chose arrivée, que moi, je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit quelqu'un que j'aurai envoyé, c'est moi qu'il reçoit. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant dit cela, Jésus fut troublé dans son esprit et il attesta et dit, en vérité, je vous le dis, que l'un d'entre vous me livrera. De nouveau, ce mystère de l'agonie présent. Je vous ai dit, dans l'évangile de Jean, nous le retrouvons constamment dès que Jésus est en présence de son œuvre. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. À table, tout contre le sein de Jésus, se trouvait un de ses disciples, celui que Jésus préférait. Simon-Pierre lui fait donc signe et lui dit, demande qui est celui dont il parle. Pierre a envie de le supprimer, ça c'est sûr, c'est bien évident. Il est fait pour cela. Vous voyez, au chapitre 6, il a pris les devants. Il a donné une profession de foi à l'égard du mystère de pain de vie. Ici, il sent bien que tout devient si grave. Et en dit cela, Jésus fut troublé dans son esprit. Il attesta et dit, en vérité, je vous le dis, que l'un d'entre vous me livrera. C'est trop lourd pour Jésus. Dans ce climat de la scène, dans ce climat d'amour exprimé de la manière la plus extrême, il les aima jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Aristoteles, hein, c'est jusqu'à la fin. On comprend que devant ce poids d'amour et ce poids de souffrance, alors Jésus exprime quelque chose qu'il ne peut plus porter seul. Un secret. Je vous dis que l'un d'entre vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient, à table, tout contre le sein de Jésus. Se trouvait un de ses disciples, celui que Jésus préférait. Simon-Pierre lui fait donc signe et lui dit, demande qui est celui dont il parle. Celui-ci se renversait à même la poitrine de Jésus lui ai dit, « Seigneur, qui est-ce ?» Jésus donc répond, « C'est celui pour qui, moi, je tremperai la bouchée et à qui je donnerai à tremper et à qui je la donnerai. » Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et après la bouchée, alors le Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le bien vite. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou bien donne quelque chose aux pauvres. » Ayant donc pris la bouchée, il sortit aussitôt. C'était la nuit. Si vous mettez en parallèle le chapitre 22 de Saint-Luc, qui ne parle pas du lavement des pieds, mais qui atteste que Judas est présent à l'institution de l'Eucharistie. Parce que Jean ne nous dit rien sur l'institution de l'Eucharistie. Ça a troublé beaucoup de gens, ça. Ça continue, du reste. Je crois qu'il faut tout le temps prendre ce principe, que ce que Jean a communiqué à Luc, il ne le répète pas. Il a autre chose à faire. Il y a quelque chose de particulier. Alors, au-delà de ce que Luc nous donne, il faut regarder la révélation de Jean. Et la révélation de Jean, de son évangile, c'est le lavement des pieds qui unit les deux Pâques et qui nous fait comprendre comment le mystère de l'Eucharistie implique une très grande pauvreté. L'Eucharistie ne peut être qu'à cause de la pauvreté souveraine du cœur de Jésus. Et c'est cette pauvreté qui est manifestée par le geste du serviteur. Voyez, si vous regardez, par ce geste du serviteur qui lave les pieds, si vous regardez le parallélisme avec Moïse, vous voyez que la montagne était enveloppée de la nuée de l'Esprit Saint. Ici, la nuée, c'est le geste du Christ. C'est le geste d'amour, de miséricorde, de pardon. C'est un geste réalisé sous le souffle de l'Esprit Saint. Et directement sous le souffle de l'Esprit Saint. Sagesse qui ne peut se comprendre que comme ça. Jésus brise avec toute une espèce de tradition religieuse pour reprendre tout à la source et réaliser quelque chose de plus grand, quelque chose d'infiniment plus grand, réaliser le mystère de la scène. Et pour ça, il faut que tout soit repris radicalement dans un pardon total. C'est le nouveau pardon du Christ. Le premier pardon, la première purification que Jésus réalise, c'est par sa parole. Et ce nouveau pardon du Christ, c'est par le geste du lavement des pieds qui va plus loin. On peut se demander, et les exégètes se sont demandés, se sont posé la question. Or, comme les bons exégètes de Jean ont des positions différentes, ça laisse très libre. Savoir si Judas est parti avant l'institution de l'Eucharistie ou après. Autrement dit, si Judas était présent à l'institution de l'Eucharistie. Si je regarde Luc et Jean, je crois qu'on peut l'affirmer d'une façon très nette. Judas était présent Il fallait que les 12 soient là. C'est pour les 12, l'institution de l'Eucharistie. C'est pour Marie et pour les 12. C'est en premier lieu pour Marie. C'est pour ça que Marie était sûrement présente, mais pas avec les 12. Elle préparait la Pâque. Regardez dans Saint-Luc, vous voyez bien, la présence de Marie et des saintes femmes est signalée d'une certaine manière, pas explicitement, mais elle est signalée, puisque tout était préparé d'avance. On anticipait l'heure. La Pâque devait se prendre avec les amis intimes. C'était les 12. Et la Pâque était peut-être cette nouvelle Pâque de la Seine aurait peut-être été le moyen pour Judas de comprendre. C'est pour ça que tout est tenté. Le geste d'amour, le geste du lavement des pieds, c'est bien pour Judas, pour qu'il comprenne. Alors, je crois qu'on peut dire ceci, vous voyez, si je regarde le texte de Saint Jean, je crois qu'on peut dire qu'entre le verset 19, sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites, et le verset 18, il y a l'institution de la scène. Et après la scène, nous avons, à partir du verset 18 jusqu'au verset 30, après la scène, Jésus exprime la souffrance de son cœur. La scène n'a eu aucune efficacité. L'Eucharistie n'a eu aucune efficacité sur le cœur de Judas. Vous voyez ce qu'on peut dire, hein, si on met un peu en parallèle. Comment le témoignage de Jean-Baptiste auprès des Lévites et des prêtres n'a eu aucune efficacité et combien ça a été pour Jean-Baptiste comme une très grande souffrance. Je crois qu'on peut dire que le mystère de l'Eucharistie, qui est la prédication par excellence de Jésus, ce mystère n'a eu aucune efficacité sur le cœur de Judas. Judas est resté le même, implacable. Et c'est ce qui explique alors cette attitude de Jésus. Ce n'est pas de vous tous que je parle, mais je connais ceux que j'ai choisis. Et c'est pour que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui consommait mon pain a levé contre moi son talon. C'est un dicton, hein, qui exprime la ruade de l'âne. On voit très bien ça. Judas est invité à la même table, il prend le même pain, et ce pain, c'est le pain divin. Celui qui consommait mon pain a levé contre moi son talon. Dès à présent, je vous le dis, avant que cela n'arrive, pour que vous croyiez, une fois la chose arrivée que moi je suis, en vérité, je vous le dis. Qui reçoit quelqu'un que j'aurai envoyé, c'est moi qui le reçois. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant dit cela, Jésus fut troublé. Devant ce grand mystère de Judas, ça fait partie de l'agonie de Jésus. Et à la demande de Jean, Jésus va donner un signe nouveau, qui n'est pas le sacrement de l'Eucharistie, mais qui est un signe d'amitié. Je crois qu'on peut interpréter de cette manière-là. C'est un signe d'amitié. Pendant les repas ou à la fin d'un repas, l'ami pouvait prendre cette initiative de tremper une bouchée de pain dans la coupe. Et la donner en particulier à l'ami, en lui donnant directement dans la bouche, pour comprendre les liens d'amitié. Il semble que ce ne soit pas le mystère de l'Eucharistie, vous voyez, le mystère de l'Eucharistie a été donné avant, et il y a eu un grand silence. Et le dernier geste de Jésus, le dernier geste de miséricorde et d'amour de Jésus, c'est de faire un geste à Judas que Judas peut comprendre. L'Eucharistie, Judas ne comprend rien. Puisque depuis le chapitre 6, sur le mystère de l'Eucharistie, Judas a rejeté. L'Eucharistie implique la foi. Or, Judas n'a plus la foi dans le Christ. Il doute de trop, il raisonne de trop. Mais il lui reste encore un cœur humain. Et qu'est-ce qu'on fait pour toucher le cœur d'un homme? C'est un dernier geste d'amitié, un dernier geste d'amour. Et ce geste d'amour, Jésus le fait en prenant cette initiative. Et ça, Judas le comprend. Et c'est pour ça qu'il est dit, immédiatement après, Satan entra en lui. Vous voyez pourquoi? Parce que ce geste, Judas l'accepte, comme s'il était l'ami. Or, il n'est plus l'ami, puisqu'il a décidé de trahir. Donc, il réalise un mensonge pratique, d'être celui qui, en réalité, n'aime plus le Christ et qui, apparemment, reçoit son geste d'amitié. Je crois que c'est cela, vous voyez, pour sauvegarder le récit de Luc et le récit de Jean. Et bien voir que Jean ajoute à Luc deux signes différents. Le premier, le lavement des pieds, que Jésus donne comme un signe qui est un exemple pour nous. C'est la grande préparation ultime à l'Eucharistie. Et Jean donne, rappelle, que Jésus fait un signe supplémentaire par pure gratuité, spécialement à Judas. C'est spécial pour lui, c'est pas pour les tous. Il lui donne la bouchée trempée dans le vin. Pour bien montrer son amour qui reste toujours actuel, malgré la trahison. Et ça explique le lavement des pieds. Et Judas accepte ce geste. Et après la bouchée, alors Satan, le Satan, entre en lui. Si c'est souligné comme ça, c'est pour bien nous montrer. Le démon est le père du mensonge. Et dès qu'il y a un mensonge aussi gros que celui-là, Satan entre. On ne peut pas l'affirmer de façon absolue, hein, ce que je vous donne là comme explication. Mais je crois qu'on peut le dire. Je crois qu'on peut le dire. Et ça me permet, vous voyez, de sauvegarder le grand silence de l'Eucharistie, que sans doute Jean veut nous manifester, et qu'il veut manifester à travers Luc, mais qu'il veut nous manifester de façon très très particulière. Et il veut nous montrer que Jésus poursuit Judas jusqu'au bout. Il poursuit Judas jusqu'au bout en lui donnant les bouchées. Jésus lui dit donc, ce que tu fais, fais-le bien vite. Puisque tout est décidé, l'exécution doit être rapide. Puisque dans le fond de son cœur, Judas refuse Jésus. Et que Judas, que Jésus l'a poursuivi. De deux façons, le lavement des pieds et le point de vue de la bouchée. Alors maintenant, fais-le bien vite. Lors donc qu'il fut sorti, Jésus dit, maintenant a été glorifié le Fils de l'homme et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui. Et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Cette petite phrase, hein, ces deux versets, contiennent cinq fois la glorification. C'est le texte le plus dense au point de vue de la glorification, de tout l'évangile de Saint Jean. On veut nous faire comprendre que c'est au moment de la trahison de Judas que Jésus est à la fois le plus blessé . C'est à ce moment-là où Jésus reçoit la blessure la plus terrible, sa vulnérabilité à l'égard de ses apôtres. Il les a choisis. Et c'est au moment aussi où on voit le mieux la victoire de l'amour. La victoire de l'amour, c'est la glorification. Et son amour est pleinement victorieux. Victorieux de la trahison. C'est ce qu'il y a de plus difficile, d'être victorieux de la trahison. C'est d'aimer encore plus ceux qui nous trahissent que s'ils ne nous avaient pas trahis. C'est ça le pardon, et c'est ça l'amour. Et c'est pour ça que Jésus peut dire en toute vérité, maintenant a été glorifié le Fils de l'homme. Et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui. Et c'est bientôt qu'il le glorifiera. C'est ce grand mystère de la glorification du cœur de Jésus et de la glorification du Père par le cœur de Jésus. C'est peut-être pour nous une très très grande lumière sur le point de vue du cœur blessé de Jésus. Vous voyez, dans Saint Jean, la blessure du cœur, ça reste très très court, hein, sans détail. Et ici, on assiste à la blessure intérieure. Et donc il y a toujours un parallélisme à faire. C'est Judas qui a blessé le plus le cœur de Jésus. Il l'a blessé quand Marie de Magdala, quand Marie, la sœur de Lazare, a versé le parfum d'un grand prix sur les pieds de Jésus. Il a blessé le cœur de Jésus à ce moment-là, en mettant en opposition les pauvres et Jésus. En nous faisant croire que ce qu'on donne à Jésus, on le retire aux pauvres. Et ça, ça a blessé le cœur de Jésus. Et ici, la blessure s'achève. Alors que Jésus a tout fait. Et donc, ce qui nous est montré ici doit nous aider à comprendre ce qui est manifesté par la blessure du cœur. C'est vraiment le très grand mystère de la glorification du cœur de Jésus. Donc le très grand mystère de la victoire de l'amour au-delà de la trahison. La mort physique n'est rien à côté de la trahison. Parce que la trahison, c'est la mort de l'âme au plan spirituel. Et c'est la trahison qui est la chose la plus dure à porter, la plus terrible à porter. Et Jésus l'a porté, l'un des disciples. C'est pour ça que cette affirmation, en quelque sorte, vous voyez, clôt tout ce, depuis le chapitre 13, ce geste de Jésus qui lave les mains, lave les pieds des disciples, pour leur montrer jusqu'où il va dans son pardon. Et un pardon personnel. Et un pardon qui se veut personnel. Où il est seul en face de chacun. En particulier. Nous continuerons de voir comment cette initiative du mystère de l'Eucharistie impliquer la seconde initiative, le mystère de la charité fraternelle. Avec vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, béni.